Alors, je voudrais partager ce message cet après-midi qui s'appelle « Il faut libérer les femmes et il faut aider les hommes ». Un jour, j'ai regardé à la télévision un documentaire de l'émission Envoyé spécial et il était question d'une région dans la République démocratique du Congo où des femmes sont violées par milliers. Et non seulement elles sont violées, mais aussi souvent torturées, et cela, bon, quel que soit leur âge. Et on se rend compte que c'est une véritable politique du viol qui rentre dans une tactique de guerre de la part des rebelles rwandais et autres soldats qui sont lâchés dans la nature. Je ne sais pas si certains ont vu ce documentaire, c'est passé il n'y a pas très longtemps. Et on voit que le gouvernement congolais, l'armée régulière, ne fait pas grand-chose pour protéger toutes ces femmes. Et cela m'a retourné le cœur. Je me suis dit que l'armée de Dieu doit apprendre à protéger ces femmes, hein, faire plus à les libérer. Amen. Parce qu'on n'est pas supposé marcher selon les principes de ce monde. On est supposé prouver les principes contraires que les principes qui existent dans ce monde. Maintenant, il n'y a pas besoin d'aller chercher au Congo. En France, une femme meurt sous les coups de son mari tous les 4 jours. Donc on comprend à travers ces choses-là que le diable, il hait les femmes. Bon, il hait les hommes aussi, de toute façon, il hait tout ce qui bouge. Mais il hait particulièrement les femmes. Et il y a plusieurs raisons à cela. Et on se rend compte que la Genèse, suite à la chute et à la malédiction, ne contient pas, comme l'imaginent certains, une suite de prises de position dures de la part de Dieu. « Ouais, t'as chuté, tu vas voir, tu vas me bâmer maintenant. » Si on apprend à bien lire le texte, on voit qu'elle contient surtout des promesses de restauration de Dieu à l'égard de l'homme et de la femme d'ailleurs. Dieu est un restaurateur, alléluia. Et il donne à la femme une promesse fantastique vis-à-vis de l'autorité qu'elle est supposée manifester à l'égard du diable. Lorsqu'il déclare à ce dernier, Genèse 3.15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Alors c'est vrai que cette promesse, elle est adressée à l'Église, on la reprend souvent pour dire c'est l'Église qui doit écraser la tête de Satan, et c'est vrai, mais au départ, elle est aussi adressée à une femme tout court. Il y a toute une vérité qui est exprimée dans cette déclaration. Dieu dit il y a inimitié, c'est-à-dire il y a une haine féroce entre les deux parties. Satan et la femme, c'est la guerre. Alors il nous faut des femmes en colère. On verra les hommes tout à l'heure si vous vous faites aussi bien. Pourquoi est-ce que c'est la guerre? Vous savez, Satan, il a fait chuter la femme en premier, et celle-ci en Jésus, donc en tant qu'Église, en tant que femme tout court, comme je viens de le dire, est supposée être animée d'une sainte colère, et se dire, je vais lui faire payer un retour de m'avoir fait chuter. Cela en lui écrasant la tête, en manifestant donc une autorité puissante. Vous imaginez lui écraser la tête? On est loin de certaines conceptions religieuses qui veulent au contraire ôter toute autorité à la femme. Et dans ces temps, il y a une fantastique promesse qui se trouve dans le psaume 68 de verset 12. Il est question qu'une grande armée de femmes doit se lever. Et c'est pourquoi je prêche ces choses-là. C'est pour l'aider à se lever. Et la levée de cette grande armée, comme pour d'autres levées, telles que la levée des saints ministères, comme encourager les gens à rentrer dans leur destinée chacun, partant du principe qu'il n'y a pas seulement ceux qui sont appelés aux saints ministères, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, qui ont une destinée, chacun doit réaliser qu'il a un appel particulier sur sa vie et doit être animé du désir de rentrer dans cet appel pour que l'Église devienne plus efficace. Eh bien, la levée de cette armée, c'est aussi un des facteurs qui va permettre au plus grand réveil de tous les temps de se répandre sur cette terre, dans ces temps dans lesquels on est entré justement. Une grande armée de femmes, dont une grande quantité de femmes, est appelée à réaliser leur appel et leur identité. Un appel à exercer une autorité contre les puissances des ténèbres, et cet appel et cette autorité remontent à la Genèse. Dans la plus forte raison, en Jésus-Christ, les femmes ont-elles reçu une autorité? La Bible seconde non révisée traduit la fin du verset que j'ai cité. Des femmes proclament en foule la victoire. Donc les femmes doivent participer à la victoire, elles ont une part importante même, pour qu'arrive la victoire. On pourrait même dire, pas d'armée de femmes qui se lèvent, pas de victoire. La version Le Semeur traduit la suite du même verset par « les rois ». des armées adverses s'enfuient, c'est la débandade. Et celles qui sont restées à la maison partageront le butin. Là, il y a des femmes en colère. Donc lorsque cette armée de femmes, d'après ces versets, se lève, il y a une catégorie de démons puissants qui exercent une autorité importante dans ce monde, qui s'enfuient. Les questions des rois des armées adverses, pas de n'importe quel démon, ils sont qualifiés de rois, de princes. Et ces démons se mettent à fuir. Donc ce même diable qui oppresse les femmes, quelque part, il veut les empêcher de se lever parce qu'il les craint. Est-ce que vous avez déjà vu les choses sous cet angle-là? Mais il n'est jamais trop tard. Tournez-vous vers quelqu'un et dites-lui, écoute bien. Ces séminaires sont là pour changer notre vie. Ils sont par là, j'écoute, j'écoute. Ils sont là pour changer notre vie. Pas pour ajouter des réunions à d'autres réunions. On veut, pour toutes les personnes qui participent dans ces séminaires, qui entendent certaines vérités, qui participent à ces moments de louange puissants, bien qu'il y ait un avant et un après-séminaire. Alors l'adversaire veut empêcher les femmes d'enfanter des dons, d'enfanter des ministères. Par Apocalypse 12, 13, il est question du dragon qui se tint devant la femme, c'est un principe, qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Maintenant, l'instrument par excellence que le diable utilise pour asservir, humilier et briser les femmes sont les hommes. Silence. Il y a une politique d'oppression masculine que le diable essaye de faire régner. Chez les islamistes radicaux, la plupart des femmes n'ont pas droit à l'instruction ni à une vie publique. Les juifs radicaux même sont allés dans la même direction. Parmi les choses dont on rend grâce à Dieu dans les prières, dans certains milieux, il y a le fait de ne pas être une femme. En Chine, la politique de l'enfant unique a amené des milliers de familles, à tuer les filles à leur naissance. Et dans les milieux légalistes chrétiens, et parfois moins légalistes aussi, on a empêché pendant des générations aux femmes de parler, d'exercer, sans parler qu'on a voulu les faire se voiler comme les femmes du Moyen-Orient, d'il y a 2000 ans, ou les faire se vêtir comme des grands-mères. Alors, non seulement le diable ne veut pas que les femmes se lèvent, mais il veut plus les voir, il veut qu'elles se cachent aussi. En fait, il travaille à deux niveaux, il crée deux paradoxes. Ou il veut qu'elles se déshabillent le maximum, ok? Ou alors qu'elle se cache complètement. Il ne connaît pas l'équilibre, lui. Mais dans l'Église, on est supposé connaître l'équilibre. On les veut habillés, amen, mais la tête découverte. Donc, ce sont des hommes dans ce monde, principalement, qui asservissent les femmes. Ce doit être donc des hommes qui les libèrent. Ces hommes sont des maris, des fils, des pères, des pasteurs, des frères. Et pour cela, il faut être affermi dans son identité d'homme pour ne pas se sentir menacé lorsqu'une femme se lève. Parce que beaucoup de gens n'ont rien contre le fait que les femmes se lèvent tant que c'est pas la leur. Vous savez que Dieu aime les femmes? Dieu aime les femmes. Car ils demandent aux maris de prendre soin et d'honorer leur femme. Honorer, c'est mettre en valeur, c'est respecter, c'est être prêt même à donner sa vie pour sa femme. C'est la cerise sur le gâteau, Éphésiens 5, 25, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Et ce qui est bon pour sa propre femme est bon pour les autres femmes aussi. Paul dit d'honorer les femmes qui ont été ses compagnons de service. Donc Dieu aime les femmes car il va jusqu'à limiter sa relation avec un homme qui traite mal sa femme. Dans Malachie 2, versets 13 à 16, il dit « Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte, c'est-à-dire que à cause de ça, vos prières, ça va pas marcher, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. » Et vous dites « Pourquoi ?» Dieu n'a-t-il plus égard à nos offrandes? Et Dieu répond, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahi, car je hais la répudiation de l'Éternel, et celui qui couvre de violence son vêtement dit l'Éternel des armées. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit de faire attention comment nous nous comportons dans le domaine du couple, pour que rien ne vienne faire obstacle à nos prières. Tu peux prier toute la journée si tu t'entends pas avec ton conjoint. Bon, si c'est sa faute et que toi tu fais tout pour t'entendre avec, c'est pas sur toi que ça va retomber, mais si vous faites rien pour que ça s'arrange, eh bien les prières ne vont pas dépasser le plafond. Il y a des règles spirituelles. Un mari qui traite mal sa femme brise sa propre relation avec Dieu d'après ces versets, parce qu'on peut dire qu'il blesse Dieu lui-même. Alors pas de doute, Dieu aime les femmes. Jésus, il a été cool, plein d'affection à l'égard des femmes qu'il a croisées. Eh bien, de même, les hommes doivent aimer les femmes, mais de la bonne manière. Hein. Il y a beaucoup d'hommes qui aiment les femmes, mais pas dans le bon sens. Nous parlons d'aimer les femmes en respectant leur position, leur rôle de femme, de mère, de sœur, d'intercesseur, en reconnaissant notre besoin d'elles aussi. On va y revenir. Donc, si nous les aimons, nous devons les libérer. Nous devons les aider face à l'adversité qui fait rage, face à une société qui les met au deuxième rang, parce que pour un même travail, souvent, une femme ne gagne pas la même chose qu'un homme. Donc, ne laissons pas Satan. Combien nous avons d'hommes ici?
Les hommes, là. J'ai vu la main.
Voilà. Donc, ne laissons pas Satan faire de nous des instruments pour leur destruction. Nous devons libérer les femmes, parce que c'est une mission que Dieu nous a donnée. Alors, on pourrait se poser la question, où nous est donnée cette mission? Alors, s'il n'y a pas un verset qui dit littéralement « Hommes, libérez les femmes », l'Écriture et l'Évangile et la loi de Dieu sont bâtis sur le principe de la justice, de la libération des opprimés et de la haine de toute forme d'oppression, de dévaluation de la personne et du fait d'essayer de profiter des plus faibles. Dans Actes 2, 17 et 18, il nous est dit, avant de passer à la suite, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur mes serviteurs et sur mes servantes. » Le Seigneur ne fait pas de différence entre les serviteurs et les servantes. Amen. Donc, beaucoup de serviteurs se sont levés, d'ailleurs pas toujours comme il faut, et nous avons besoin qu'une grande armée de servantes se lève également. Alléluia. Maintenant, s'il faut libérer les femmes, il faut aussi aider les hommes. Ces hommes qui peuvent être si durs, si irritables, si indépendants, s'ils ne veillent pas, il n'en demeure pas moins des personnes qui ont besoin d'aide. Un homme a besoin d'aide pour s'en sortir ici-bas, pour assumer son identité, pour trouver son équilibre, tout simplement pour se comporter en homme dans le plein sens du terme. Cette aide, savez-vous d'où elle est supposée lui venir? Vous suivez? Des femmes. Je sais cela parce que je suis un homme déjà. Et ensuite parce que c'est la parole de Dieu qui nous le montre. Dans la Genèse, avant de tirer la femme de l'homme et de la placer à ses côtés, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, si Dieu a fait une aide à l'homme, c'est que l'homme a besoin d'aide. La femme a donc été placée aux côtés de l'homme avec, entre autres, le but précis d'être son aide. Ce terme « aide » d'ailleurs, n'est en aucun cas un terme dévaluant.
Ouais, je suis juste l'aide.
Dieu dit déjà qu'il donnera à l'homme une aide semblable à lui, c'est-à-dire égale, on est bien d'accord? Non seulement ce n'est pas un terme dévaluant, mais bien au contraire, c'est un terme honorifique, car il est également un des qualificatifs du Saint-Esprit. Le mot grec, traduit en général par consolateur, a plusieurs autres sens, il a 7 sens. Ça fonctionne comme ça dans le grec, un seul terme peut avoir plusieurs sens. C'est quand on connaît tous ces sens qu'on peut faire le tour de ce que Dieu a voulu vraiment dire, parfois à travers certains mots. Dans le mot grec traduit par consolateur, signifie aussi celui qui se tient à nos côtés, et signifie aussi l'aide. Donc si ce terme d'aide est utilisé pour le Saint-Esprit, il est tout sauf dévaluant. Il est utilisé pour Dieu lui-même dans la personne du Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Donc nous devons apprendre à redonner la définition à certains termes, la définition biblique, au lieu de prendre la définition que nous avons dans le monde. Vous savez, dans le monde, si on prend la définition de la soumission, c'est « tu es soumis et tu t'écrases ». Hein. Si on prend La première fois, on lit dans 1 Corinthiens, l'homme est le chef de la femme, on prend la définition du monde, c'est sûr qu'aucune femme a envie d'avoir un grand chef qui met les pieds sous la table le soir en disant, vas-y, bobonne, apporte la soupe, hein. La notion de chef, dans le grec, signifie tout simplement la source de bénédiction. Or, toute femme, bien dans sa tête, a envie d'avoir un chef qui soit la source de bénédiction, qui va tout faire pour la bénir. Alléluia! Mais il est important, quand on lit l'écriture, qu'on ne mette pas sous les mots la définition qui se trouve dans le monde, parce qu'on ne fait pas partie de ce monde. Il faut qu'on apprenne à relire l'écriture. Amen! Certains maris comprennent lorsqu'il est dit, femmes, soyez soumises à vos maris, eux, dans leur version, c'est maris, soumettez vos femmes. Alors, si ce mot aide signifiait boniche, ou quelque chose du genre, en aucun cas ce qualificatif ne pourrait être donné à la troisième personne de la Trinité. Vous êtes d'accord avec moi? Ce terme aide attribué à la femme nous révèle une vérité, c'est que l'homme a besoin d'aide. Help! Parce qu'on ne place pas une aide aux côtés de quelqu'un qui n'en a pas besoin pour faire bien, mais parce qu'il y a un réel besoin. L'homme est donc appelé à réaliser qu'il a besoin d'aide. Et ça demande parfois de l'humilité de réaliser qu'on a besoin d'être aidé et qu'on ne va pas s'en sortir tout seul, quelle que soit la grosseur de nos muscles. Donc on est d'accord, la femme n'est pas une aide qui fait de la figuration, elle est une aide incontournable, établie dans l'équilibre de la création. Et d'ailleurs, ne pas accepter pour la femme cette position, c'est automatiquement détruire une grande partie de l'identité que Dieu lui a donnée, parce que vous avez beaucoup de gens aussi qui sont toujours prêts à pousser les enseignements qu'ils entendent à l'extrême. Amen. Ils prendront la première partie de mon enseignement, il faut libérer les femmes, et puis on va se retrouver avec toute une catégorie de femmes qui marchent sur les pieds de son mari. Or, ce n'était pas mon enseignement. Et parfois, certaines personnes ne veulent pas croire aux femmes dans le ministère parce qu'elles sont allées trop loin. Elles utilisent l'autorité dans le ministère, mais aussi en rentrant à la maison. Équilibre, alléluia. C'est pourquoi ce genre de message peut nous aider à trouver notre équilibre. Dans ce monde, il y a un dicton. On dit que derrière tout grand homme, il y a une grande femme. C'est juste. Cela signifie qu'on a remarqué la réalité de cette règle. Un homme réussit souvent grâce à sa femme. Ce qui sous-entend aussi qu'un homme va avoir plus de chances d'échouer aussi à cause de sa femme. Ce qui ne veut pas dire que tout ce qui échoue, c'est à cause de leur femme, d'accord? La Bible dit en effet dans les Proverbes, Proverbe 21:9, « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. » Souvent, je le dis à ma femme, « Tu sais ce que j'apprécie, c'est que tu me prends pas la tête. » Alléluia. Amen. Et parfois, les gens vous regardent et vous disent, « Oui, pour vous, ça marche. » Oui, pour moi, ça marche, mais ma femme, en 30 ans, elle m'a jamais parlé comme j'entends certaines femmes parler à leur mari tous les jours. Ok? Je me lâche. Allez, encore un petit verset, Proverbe 12:4, « Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. » Il est bien celui-là. Non, j'ai été gentil avec les femmes dans la première partie. Alléluia. Non, il faut rétablir l'équilibre. Combien j'ai vu d'hommes qui avaient un appel puissant et dont la femme a bousillé leur ministère. Vous allez me dire, « Oui, mais pour ceux qui ne sont pas mariés alors ?» Ou ceux dont les femmes ne les soutiennent pas, sont-ils donc condamnés à échouer? Donc, notre raisonnement cet après-midi, il dépasse le cadre du couple, même s'il le concerne en priorité. Je crois que c'est un principe divin concernant l'équilibre qui se crée à travers un échange sain, hein, au niveau des relations entre le masculin et le féminin. C'est comme le plus et le moins pour faire charger une batterie, vous savez? Je suis sûr qu'un homme, pour parvenir à ses objectifs, même s'il n'est pas marié, il trouvera sur son chemin des femmes pour l'aider. Et le principe existe dans l'autre sens. Et Jésus a démontré cela. Des femmes soutenaient son ministère. Vous imaginez aujourd'hui? Un prédicateur vous dit, « Moi, je suis soutenu par des femmes. » ça passe dans le journal, dès lundi, le gars qui a fait le séminaire à Codonia, vous voulez savoir comment il vit? Il se fait soutenir par des femmes. Il n'était pas coincé, Jésus, parce qu'il était bien dans sa tête. Alléluia, parfois on veut chercher le mal là où il n'est pas. Jésus a démontré cela. Les femmes furent des aides pour lui permettre d'exercer son ministère dans les meilleures conditions. Dans le cadre de l'aide féminine, si je puis dire, dépasse donc celui de la relation de couple. Combien qu'ils doivent tout à leur mère, déjà à leur sœur. Moi, j'ai une belle-mère fantastique, alléluia, qui pendant des années a soutenu et soutient toujours notre ministère, qui prie pour nous tous les jours. On n'a jamais eu la voix qui a monté depuis qu'on se connaît, l'un à l'égard de l'autre. C'est possible. Combien qu'ils doivent tout à leur sœur, qui les a élevés quand ils ont perdu leurs parents, à leur tante, voire à leur amie, voire à leur collaboratrice femme. Donc Guichot dit tout devoir à sa belle-mère, qui était une femme de prière et de bons conseils. Est-ce que vous comprenez le message cet après-midi? Je parle d'un équilibre. Amen. Dieu a créé des hommes, il a créé des femmes. Au départ, il a créé un homme créé à son image qui était homme et femme à la fois. Parce qu'il y a une part de Dieu qui est féminin. Il a sorti la femme de ce premier prototype. Et le diable, eh bien, il fait tout pour faire en sorte que ces deux entités qui ont été placées sur cette terre pour s'entraider se déchirent. Donc les femmes doivent réaliser qu'elles ont cette mission d'aider les hommes. Bien sûr qu'on aurait très bien pu intituler cette deuxième partie « Il faut libérer les hommes ». Comprenons donc qu'un homme n'est libéré par sa femme que lorsqu'il est aidé par elle. On n'aide pas toujours les gens par rapport à ce que l'on pense qu'ils ont besoin, mais par rapport à ce qu'on a réalisé qu'ils ont besoin. Et parfois les gens veulent vous aider, mais ils vous aident comme ils aimeraient être aidés eux. Alors ce qui est important, c'est d'être aidé comme on désire être aidé nous. Si j'aime les fleurs et que je veux te faire plaisir et que je t'offre des fleurs, mais j'ai pas calculé avant si t'aimais ou pas les fleurs, c'est pas sous prétexte que moi je les aime que je vais te faire du bien en t'en offrant. Peut-être que tu es allergique aux fleurs et je vais te tuer. Offrez des champignons à Michael et vous le tuez. Vous aimez peut-être la pizza aux champignons, mais lui il va en mourir, il est allergique aux champignons. Amen. Bon. Non, si quelqu'un a du mal à le supporter, vous savez ce qu'il faut faire aussi. Donc il y a une réalité importante à saisir ici. Beaucoup de gens, en effet, lorsqu'ils veulent vous aider à leur manière, selon leur conception. Imaginez une femme qui veut aider son mari en lui faisant sans arrêt des reproches, en mettant en évidence ses carences, en se disant qu'ainsi il va finir par changer. Un homme devrait faire ceci, un homme devrait faire cela, tu n'es pas à la hauteur. Ben tu vas l'aider, je te dis pas. C'est la politique de beaucoup de personnes, changer l'autre à force de réflexion désobligeante. Ça vous a déjà changé, vous, quelqu'un qui vous fait sans arrêt la même réflexion? Il vaut mieux ne pas être aidé qu'être mal aidé. Si vous voulez aider quelqu'un, vous devez chercher comment répondre à son besoin d'aide, même si c'est en laissant de côté vos conceptions personnelles. Si vous voulez aider vos enfants, vous ne devez pas partir du principe que vos enfants sont comme vous. Ils n'ont pas les mêmes besoins, ils ne réagissent pas obligatoirement de la même façon. On ne peut aider une personne convenablement que quand on apprend à la connaître. Alléluia. C'est pourquoi la relation dans le couple entre l'homme et la femme n'est pas supposée être une relation superficielle. Et d'ailleurs, le mot qui est employé, connaître dans l'Ancien Testament, pour définir les rapports sexuels, ben ça se traduit par connaître aussi, tout simplement. Ce qui signifie que dans le plan de Dieu, on est supposé avoir des rapports sexuels quand on s'est connu. Est-ce que vous me suivez? Et nous sommes dans un monde où avoir des rapports sexuels, c'est avant de se connaître. On va essayer d'abord. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Pouh ! Quelqu'un disait que dans le cadre du couple, si la femme est appelée à marcher dans la soumission à son mari, c'est parce qu'elle soutient la mission. Que ce soit clair, une femme n'adorera jamais son mari en lui marchant dessus et en le dominant. D'ailleurs, ne pas usurper l'autorité du mari, c'est le vrai sens du verset de 1 Timothée 2:12, souvent mal traduit, où Paul semble dire « j'interdis à la femme d'enseigner ». Dans le grec, il dit tout simplement, et il s'adresse déjà pas à toutes les femmes, aux femmes mariées, il leur dit dans le grec tout simplement qu'il ne veut pas qu'elles usurpent l'autorité de leur mari, ce qui est très différent, ce qui change beaucoup de choses. Lorsque vous entrez dans une maison et vous voyez que c'est la femme qui dit à son mari quoi faire, et quand se taire, vous savez que ce couple a des problèmes graves. Alors nous avons encouragé les maris à libérer leurs femmes, mais je tiens à préciser ici que malheureusement, beaucoup de femmes libérées par leur mari utilisent cette nouvelle liberté pour leur marcher dessus. Mais en fait, plus une femme est libérée, si elle est une femme de l'esprit, plus elle va aider son mari. Et dans l'autre sens, plus un homme est aidé par sa femme, plus il doit normalement avoir le désir de la libérer, au lieu de la servir. Amen ? Vous êtes d'accord ? Dites-tu d'accord ? Ouais. Là, il faut m'encourager un peu quand même. On est là, atelier prophétique, on est là pour sortir de soi. Alléluia. Bougez un peu. Ouais. Des fois, on a peur. Oh, il faut pas trop en faire. Mais vous savez, parfois, c'est mieux d'en faire, de déborder un peu, parce qu'on en fait, plutôt que de rien faire du tout. Parfois, on a tellement eu peur des débordements qu'on a tout interdit. Alors, il vaut mieux un feu, des fois, qui prend un peu au rideau, mais qui est vivant, que pas de feu du tout. On veut l'ordre, oui, mais la conception de l'ordre, selon les principes bibliques, Dieu est un Dieu d'ordre, vous êtes d'accord avec moi? Le jour de la Pentecôte, ils avaient tous l'air sous. C'était l'ordre de Dieu. Alors là aussi, on doit mettre sous la définition du mot ordre, la définition biblique, et non pas la définition de ce monde. Parce que dans ce monde, l'ordre, ben, vous allez dans un cimetière, il y a de l'ordre. Hein, et ça risque pas de bouger d'un moment. Sinon, pour ceux qui seront enlevés avec Jésus, hein. Alors, assurons-nous qu'on est dans le bon ordre. Amen. Vous êtes d'accord? C'est sûr? De toute façon, quelqu'un d'égoïste, il utilisera toujours la bénédiction de Dieu, voire les enseignements qu'il entend, à ses propres fins. Tout ce qu'il se rappellera, c'est cet après-midi, c'est la partie qui concerne sa femme, ou qui concerne son mari. C'est le propre de l'égoïsme. Tu as bien écouté ce qu'il a dit. Ouais, et toi, t'as écouté? Ouais, j'ai écouté ce qu'il a dit sur toi. De toute façon, le propre même de la tentation, c'est de chercher à nous pousser hors des schémas établis par Dieu. De même que tout homme est tenté de faire subir ses sautes d'humeur à sa femme, parce qu'il est dit à l'homme, ne vous irritez pas contre elle, alléluia, parce que l'homme, il a une tendance à s'irriter pour pas grand-chose, souvent, eh bien, toute femme est tentée aussi, à un moment donné, d'usurper l'autorité de son mari. Et donc, il nous faut apprendre à rester dans les schémas que Dieu a établis, qui sont des facteurs d'équilibre et de bénédiction. Alors, ce n'est pas évident dans ce monde et dans cette société oppressante d'être un homme, un mari, un père, de toujours assuré. Donc, l'homme a besoin d'aide. Il y a des hommes ici? Allez, criez avec moi. À l'aide! À l'aide! Il y en a, ils sont pas sûrs. Ben, elles ont pas hésité à crier tout à l'heure, nos sœurs, là, ok? Ok. Ah, c'est bien, vous pouvez rentrer ce soir, dire, chérie, j'ai besoin de toi! Eh, l'homme n'a pas toujours autant d'assurance qu'il semble avoir. Nous essayons tous d'être à la hauteur des attentes des autres, de l'image que nous devons, et c'est normal, rendre en tant qu'homme. Cela n'empêche pas qu'à l'intérieur, on est parfois insécurisé, on a des craintes à gérer, alléluia. Et si on sent qu'on a deux yeux sur nous qui regardent 24 heures sur 24, si on va faillir à notre place d'homme, c'est stressant. Hein, c'est là qu'on commence à vouloir cacher les choses. Si on a l'impression que dès que l'on a failli, qu'on n'en est plus à la hauteur, notre femme va nous mépriser en tant qu'homme, on va se refermer sur soi. Un homme a besoin de savoir qu'on le soutient, qu'on croit en lui. Tu crois en moi? Ça va, ça me... Spécialement dans les moments de faiblesse. Et qui est mieux placé pour cela que sa femme? Nous connaissons tous le passage des proverbes concernant la femme vertueuse. Et nous pouvons certainement tirer de ce passage comment une femme peut aider concrètement son mari. Alors on ne va pas citer tout le passage. Il y aurait un message à faire rien que de ce passage-là. Il est dit « Qui trouvera une femme de valeur ?» ou selon les traductions « vertueuse ». Autre traduction « Qui trouvera une femme vaillante ?» L'idée est placée là sur le fait que c'est une femme qui en veut, qui va pas se laisser arrêter comme ça. Déjà, si l'auteur des proverbes il pose la question « Qui trouvera ?», c'est que ce genre de femme n'est pas la norme. C'est pourquoi il est dit « Son prix dépasse de loin celui des coraux. » Je connais pas le prix des coraux. Pour aider puissamment son mari, une femme doit accepter de ne pas correspondre aux normes de la plupart des femmes dans ce monde. C'est ce qui lui donne sa valeur. Maintenant, ce qui est rare dans ce monde par rapport au nombre de personnes sur la planète ne devrait pas l'être au sein du corps de Christ quand même. Parce qu'en Christ, nous sommes supposés devenir de nouvelles créatures. Amen. Qui que nous étions dans ce monde, aussi pourris que nous étions, aussi disjonctés que nous étions, aussi déséquilibrés que nous étions, en Jésus-Christ, on est supposé s'équilibrer. Amen. On est supposé devenir l'homme que Dieu a prévu que nous soyons, la femme que Dieu a prévu que nous soyons. Ça ne se fait pas en 15 jours, mais quand on est sur le chemin, avec l'esprit qui souffle dans nos voiles, ça c'est bien dit, eh bien on va évoluer tous les jours. Amen. En Christ, on est supposé devenir de plus en plus l'homme ou la femme qui correspond aux critères bibliques. Il est dit de cette femme que le cœur de son mari a confiance en elle et qu'elle lui fait du bien et non pas du mal tous les jours de sa vie. La personne qui nous est le plus proche, je l'ai dit tout à l'heure, je vais terminer par là, peut être le meilleur instrument pour nous faire du bien, mais peut être aussi utilisée par l'adversaire, si elle ne veille pas, pour nous faire du mal. Nombreux sont les gens, en effet, qui passent de l'un à l'autre continuellement. Ils vous font du bien, ils annulent ce bien un peu de temps après, par le mal qu'ils expriment, avec autant de spontanéité qu'ils ont exprimé le bien. Vous connaissez ce genre de personnes, ils vous font du bien, et puis il faut faire attention, vous savez pas sur quoi vous allez tomber en les re-rencontrant le lendemain. Vous dites, c'est la même personne. Et parfois, on a droit à ça dans l'église aussi. Le gars, il a donné une merveilleuse prophétie, il était vraiment dans l'esprit, et le lendemain, il nous débite en plein cul de la plus grosse ânerie de l'année, et on n'ose pas dire que c'était pas de Dieu. Ben, il faut oser. Parce que la même personne peut apporter le meilleur comme le pire si elle ne veille pas. Il est donc important de savoir comment faire du bien aux autres, mais aussi comment ne pas leur faire du mal. C'est important de savoir comment leur faire du bien. Et c'est important aussi de savoir comment ne pas leur faire du mal. Alléluia. Et je voudrais qu'on puisse prier cet après-midi. Je ne sais pas dans quel sens on va aller, mais je voudrais qu'on puisse libérer l'esprit de ce message. Amen. Vous savez, dans un message, il y a un esprit. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc quand on sait saisir l'esprit qui se trouve à travers certaines paroles, ça peut changer le cours des choses dans notre vie, on peut à notre tour le changer dans notre entourage. Parfois les gens viennent, ils écoutent à moitié ou ils écoutent qu'une partie, et ils s'étonnent de ce que ça marche pas. Alors que quelqu'un est venu trouver à Jésus, lui a dit, dis seulement une parole et ça va marcher. Alors, il y a eu plus qu'une parole cet après-midi, vous êtes d'accord avec moi? Et moi, je crois que Dieu veut réconcilier les hommes avec les femmes. Dieu veut qu'il se lève une armée de femmes. C'est vrai, il veut qu'il se lève aussi des couples forts. Parce qu'on a affaire à toute une catégorie d'enfants de pasteurs qui croient plus à l'église à cause du témoignage pourri que leurs parents leur ont donné. Et une bonne catégorie sont des enfants eux-mêmes de pasteurs. Donc nous n'avons pas besoin d'un réveil parmi la jeunesse. Arrêtez de prier pour un réveil dans la jeunesse, ces pauvres jeunes, afin qu'ils soient touchés. Priez pour un réveil chez les grands. Amen. Et d'après Malachie, c'est en voyant cela, le cœur des pères qui se tourne vers les enfants, que le cœur des enfants se tournera vers leur père. Alléluia, je crois que parfois on a les choses à l'envers. Ces pauvres jeunes qui se droguent et ces pauvres parents qui s'entretuent. Est-ce qu'on peut lever nos mains quelques instants ?